Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. C'est parti pour une nouvelle édition de votre grand journal du soir, ici en studio dans le 15e arrondissement de Paris, rue des Cévennes, jusqu'à 20h. Alors à la une, ce soir, il était une légende du cinéma français, acteur et comédien Michel Piccoli est mort. On lui rend hommage dans votre journal, Isabelle Mier, dans un instant. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
18h20, école fermée, au bout d'une semaine, à peine 25 clusters identifiés en France depuis le début du déconfinement. Que doit-on penser de tout cela? Je recevrai le président de la région Grand Est et médecin urgentiste. Mon invité est Jean Rottner dans quelques minutes. 19h20, quel avenir pour l'Europe? Quelle reprise pour l'Union? La secrétaire d'État aux affaires européennes, Amélie de Montchalin, ce soir sur Europe 1, après la conférence commune d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel. Et puis à 19h30, à une semaine du Ségur de la santé, radio ouverte aux soignants. Ce soir, ça se passe sur Europe 1. Vous avez la parole au 39-21. C'est votre grand journal du soir pour écouter ensemble le monde changer. On s'élance jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Je faisais partie de ces gens de théâtre qui disaient « Mais le théâtre, c'est de l'art, le cinéma, c'est du commerce. » Quelle bêtise!
Il aimait le théâtre, c'est sûr, mais il a aussi énormément apporté au cinéma. Michel Piccoli a tiré sa révérence à 94 ans. Immense acteur qui s'est essayé à tous les genres, près de 200 films et quelques répliques cultes qu'on va réentendre ensemble avec grand plaisir dans un instant.
185 000 élèves de retour au collège après deux mois de confinement. Forcément, il faut de nouveau trouver ses marques.
On devait tenir une distance d'éloignement, donc c'était un peu compliqué quand on voulait parler dans la cour, tout ça. Elle était trop bien la journée. Était spécial mais bien.
Voilà, une journée spéciale mais bien. Et si les collèges rouvrent, 70 écoles, elles, sont restées fermées aujourd'hui en raison de cas de Covid-19 ou de suspicion, notamment à Roubaix. On sera sur place.
Le retour des Corona Bonds, la France et l'Allemagne proposent de s'endetter pour relancer l'économie européenne. 500 milliards d'euros qui iraient en priorité aux pays les plus touchés par l'épidémie.
Et on sera en direct de Bruxelles tout à l'heure avec Isabelle Horry. Et puis l'Italie retrouve la douceur de vivre avec la réouverture de ses restaurants, de ses bars et de ses commerces, mais aussi de ses églises.
Pouvoir entrer dans la basilique, seule, pour moi qui habite juste à côté, c'est magnifique.
La Bourse de Paris a terminé ce soir sur une envolée de 5,16% à 4498 points, dopée notamment par ce grand plan de relance européen.
Bonsoir et bienvenue Anissa, le temps c'est avec vous, d'ailleurs toujours agité dans le sud.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Effectivement, c'est vrai qu'il a fait beau sur pratiquement toute la France aujourd'hui, sauf sur la Côte d'Azur et la Corse. Et bien demain, c'est exactement le même scénario. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Isabelle Millet.
Et parce que c'était un immense comédien qu'on aimait beaucoup, on avait envie ce soir de rendre hommage à Michel Piccoli, dont la famille a annoncé aujourd'hui le décès qui remonte à la semaine dernière. Il a succombé à un accident cérébral.
Michel Piccoli, 94 ans et une filmographie impressionnante, c'est simple. Il a côtoyé les meilleurs et donné la réplique aux plus grands et aux plus grandes aussi.
Et oui, parmi lesquels Romy Schneider dans Les choses de la vie, incontournable, et Brigitte Bardot également, une rencontre qui a d'ailleurs donné cette scène culte dans le film Le mépris de Jean-Luc Godard, c'était en 1963.
Tu vois mon derrière dans la glace?
Oui.
C'était joli mes fesses.
Oui. Très.
Brigitte Bardot qui a réagi tout à l'heure à cette disparition de Michel Piccoli par ces mots. Il avait du talent, de l'humour et il aimait mes fesses.
Ouais, c'est vrai qu'il en avait du talent, immense comédien capable de s'imprégner de chaque rôle à tel point que quand il jouait un ministre par exemple, on avait vraiment l'impression qu'il était ministre. Retour sur une carrière exceptionnelle avec Angèle Châtelier.
Je ne déclarerai plus Hélène.
Et de la vie de Michel Piccoli, beaucoup retiennent cet air, la chanson d'Hélène, qu'il fredonne avec Romy Schneider dans Les choses de la vie en 1970. L'art, Michel Piccoli, l'a dans le sang. Il naît d'un père violoniste, d'une mère pianiste, mais lui c'est d'abord au théâtre qu'il s'illustre, des planches qu'il n'a jamais quittées, mais il s'éprend aussi du cinéma dès 24 ans. Cependant, c'est avec Le mépris de Jean-Luc Godard, oui, que le grand public le découvre en 1963. Depuis, il a surtout été Michel Piccoli le fidèle. Difficile de dissocier l'acteur de Louise Buñuel, Claude Sauté ou Marco Ferreri. Sous l'œil des réalisateurs, ils partagent avec chacun d'eux plusieurs films. Michel Piccoli est aussi Simon Dame dans Les Demoiselles de Rochefort ou encore le cardinal Melville, rempli de doutes dans Habemus Papam. 75 ans de carrière en tout et autant d'années à réfléchir au temps qui passe, à la vieillesse, sujet qui revenait beaucoup dans ses interviews, comme ici à Europe 1 en 2009.
Je trouve que plus on vit tard, plus c'est le bel âge. Donc moi, je suis très content d'être déjà vieux et j'espère beaucoup continuer à être très très vieux. Voilà. Je crois que j'ai toujours eu beaucoup de chance d'ailleurs.
L'acteur n'existe que dans le regard des autres, disait aussi Michel Piccoli. Un autre qui finalement ne s'éteint jamais.
Merci beaucoup Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1 pour ce portrait de Michel Piccoli qui nous a quitté donc à l'âge de 94 ans.
Il est 18h04 sur Europe 1, la suite du journal avec Nathalie Lévy et Isabelle Millet.
Et après les écoles maternelles et élémentaires, ce sont les collèges qui ont donc rouvert ce lundi, uniquement, attention, pour les 6e et pour les 5e, 185 000 enfants en tout. Alors depuis ce matin sur Europe 1, on suit avec vous Stéphane Place, cette rentrée dans un collège de Pessac près de Bordeaux. Vous étiez là ce matin Stéphane, vous étiez là aussi à la mi-journée et bien sûr vous étiez là avec le micro Europe 1 quand la cloche a sonné la fin des cours tout à l'heure. Alors ça s'est passé comment ?
Eh bien, on a retrouvé des enfants souriants à la sortie du collège Alouette dans ce quartier paisible de Pessac. Des élèves de 5e et de 6e, pas mécontents à l'image de Salomé, de quitter enfin leur masque, d'autant qu'il a fait chaud ici aujourd'hui.
On pouvait l'enlever quelques fois dans la classe, mais vraiment, sinon on devait le garder le plus souvent possible. Avec le masque, c'est compliqué, en plus de parler, tout ça. Donc. Déjà, on devait tenir une distance d'éloignement, donc c'était un peu compliqué quand on voulait parler dans la cour, tout ça. Après, les profs, du coup, c'était eux qui changeaient de classe et c'était pas nous. Elle était trop bien la journée. Elle était spéciale mais bien.
Retrouver sa fille heureuse d'avoir repris le chemin du collège, un soulagement également pour la maman Vanessa.
En fait, pareil pour nous, on avait beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétudes. Très très contente que ça se soit bien passé.
Masque obligatoire, réorganisation des classes, de la cantine au final. Le bilan de la journée est positif pour le principal de l'établissement, Yannick Marmiès.
Nous avons 61% des élèves qui sont présents. Tout s'est bien passé. Pour les plus jeunes, les 6e, c'était parfois compliqué de respecter ce mètre de distance, notamment dans la cour, d'où le port du masque obligatoire. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte dans les salles qu'il y avait de l'espace et que ce masque finalement pouvait ne plus être un obstacle. On est content d'avoir vu des élèves légers.
Reste à rassurer les collégiens hésitants et qui ne sont pas encore revenus dans l'établissement.
La rentrée au collège avec Stéphane Place à Pessac en Gironde pour Europe 1.
Et pendant que certaines ouvrent leurs portes, d'autres ferment, Isabelle.
Oui, 70 écoles environ, des maternelles ou des primaires, après des cas avérés ou bien des suspicions. À Roubaix, dans le Nord, notamment, 7 écoles ont gardé portes closes depuis ce matin à titre de précaution. Un élève a en effet été testé positif au Covid-19. Lionel Gougelot est sur place pour Europe 1.
Quand on a appris en plus qu'il y avait un cas dans l'école, et ben maman elle a dit « Ah ben là c'est sûr, vous allez pas y retourner parce qu'il faut pas mettre en danger toute la famille. »
Élève de CM2, Marianne est pas retournée en classe ce matin et elle approuve la fermeture de son école comme Adem, son petit frère, scolarisé lui en cours élémentaire.
Moi je trouve que c'est une bonne décision qu'ils referment les écoles parce qu'il peut y avoir des malades qui le transmettent aux instituts.
D'ailleurs Kamel, le papa, juge que le retour en classe était prématuré la semaine dernière.
Je pense qu'on aurait dû les laisser fermer parce que ça sert à rien de prendre des risques comme ça, quoi. C'est très trop rapide. Puis à un mois des vacances, c'était vraiment trop risqué de faire reprendre l'école.
7 écoles fermées dans la ville pour un cas signalé, principe de précaution maximale, assure Guillaume Delbar, le maire de Roubaix.
Ce qui nous permettra dans la semaine de gérer tout ce qu'il y a à faire, ça va de la désinfection des écoles en passant par les tests et puis en travaillant pour être dans une logique de réouverture dès lundi prochain.
Mais l'affaire pourrait bien renforcer la méfiance de nombreux parents. Seuls 6% des élèves avaient retrouvé le chemin de l'école jeudi dernier à Roubaix.
Lionel Gougelot à Roubaix, donc, pour Europe 1.
Des cas positifs dans les écoles, mais aussi, vous le savez, dans des abattoirs désormais près d'Orléans, à Fleury-les-Aubrais, dans les Côtes-d'Armor, à Saint-Brieuc, où tous les salariés seront dépistés à partir de demain. On y reviendra dans votre journal à 19h, Isabelle.
Et on en parle également ce soir avec vous, docteur Jimmy Mohamed. Bonsoir.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous.
Alors, l'apparition de clusters, des cas dans des écoles, on vient d'en parler, dans des abattoirs, des Français qui ont pris, c'est vrai, quelques libertés pour ce premier week-end de déconfiner en se regroupant entre amis, sans toujours respecter bien les mesures de précaution. Est-ce que finalement tout cela est normal ou est-ce qu'il faut commencer vraiment à s'inquiéter ?
Alors les clusters qui ont été identifiés ont lieu essentiellement dans des lieux clos, là où la distanciation physique n'est pas respectée. En revanche, en ce qui concerne les espaces extérieurs, l'équivalent du directeur général de la santé allemand, le docteur Christian Drosten, qui est aussi virologue, préconise le fait qu'à l'extérieur, on a peu ou pas de risque de développer le coronavirus. Mieux vaut à l'extérieur, à 1 mètre les uns des autres, que dans des petits appartements confinés. Le risque est très limité de contagion de la maladie. Donc si vous respectez les distances, que vous ne partagez pas trop de repas, il est possible d'éviter une contamination. En ce qui concerne les cas, ceux-là sont dépistés, isolés et traités. Donc c'est plutôt rassurant de voir que nous ayons des cas. On ne passera pas d'une phase exponentielle à une absence d'épidémie.
Merci beaucoup, hein, docteur Jimmy Mohamed. À demain dans ce journal de 18h. Et dès 15h, c'est l'émission Santé d'Europe 1 où vous vous trouvez aux côtés de Mélanie Gomez. Ça s'appelle Sans Rendez-vous. Et puis à 18h20, je recevrai ce soir le président de la région Grand Est et médecin urgentiste Jean Rottner dans quelques minutes. Hein.
Et dans ce contexte, est-il possible d'organiser le second tour des municipales fin juin ou est-il préférable de le reporter à septembre? Édouard Philippe avait saisi le conseil scientifique la semaine dernière. On attend toujours le verdict des experts, sans doute d'ici demain, mais le Parlement, attention, aura aussi son mot à dire.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy et Isabelle Millet.
À suivre dans cette édition de 18h, 500 milliards d'euros pour relancer l'économie européenne, initiative d'Emmanuel Macron et Angela Merkel il y a quelques minutes.
Et puis un cappuccino en terrasse ou bien des spaghettis à la vongole, c'est de nouveau possible depuis ce matin en Italie.
Europe 1.
18h11 sur Europe 1, la suite du journal avec Nathalie Lévy et Isabelle Millet.
Et c'est une petite révolution. La France et l'Allemagne proposent que l'Union européenne s'endette pour relancer l'économie mise à mal par la crise du Covid-19. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont annoncé tout à l'heure un plan de 500 milliards d'euros.
Et oui, on vous retrouve à Bruxelles, Isabelle Horry, en direct pour Europe 1. Alors, 500 milliards, ça veut donc dire, et il faut insister peut-être sur ce point, que pour la première fois, l'Union européenne va franchement s'endetter. C'est même un peu le retour des Corona Bonds.
Ou alors, il ne faut pas le dire trop fort parce que les Allemands n'aiment pas ce mot. Ouais. Mais oui, vous avez raison, le cœur de l'accord entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, c'est la même idée que ces fameux Corona Bonds. La France et l'Allemagne proposent en effet que pour la première fois, les pays européens émettent ensemble de la dette, qu'il y ait donc des obligations, des bonds européennes. Alors c'est la Commission européenne qui empruntera au nom de tous sur les marchés. C'était un tabou pour les Allemands, hein, il y a encore quelques mois. Cet argent, 500 milliards d'euros au total, il sera versé au budget européen multiannuel. Il ne servira pas à financer des prêts qu'il faudrait rembourser. Non, ça sera bien des subventions budgétaires. Là aussi, c'est un tournant. C'est ce que réclamaient les pays du Sud qui voulaient de la solidarité. L'argent sera destiné à la relance et à l'investissement dans les secteurs et les régions qui auront le plus souffert. Emmanuel Macron parle d'une étape majeure. Alors voilà, cet accord franco-allemand, il était indispensable pour que l'Europe avance et il va maintenant servir de base à la proposition détaillée de Bruxelles attendue la semaine prochaine.
Correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles, donc.
Voilà. Alors, quel avenir, quelle relance précisément pour l'Europe? Je reçois à 19h20 ce soir sur Europe 1 la secrétaire d'État aux affaires européennes, Amélie de Montchalin, pour poursuivre avec elle ensuite à cette conférence de presse commune.
L'Europe qui poursuit son déconfinement et notamment l'Italie qui retrouve depuis ce matin un peu de sa dolce vita. Blandine Gonnet, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Rome.
Et oui, c'est un jour de grand redémarrage pour les Italiens. Depuis ce matin, les salons de coiffure ont accueilli leurs premiers clients, les bars et les restaurants ont réinstallé les tables en terrasse, les plages sont accessibles aussi et même les églises qui ont rouvert leurs portes, à l'image de l'immense basilique Saint-Pierre au Vatican restée vide pendant 70 jours, complètement désinfectée désormais et qui a attiré les habitants de Rome ce matin comme Franca, émue aux larmes derrière son masque.
Je n'étais pas venue depuis 5-6 ans à cause des longues files d'attente. Mais aujourd'hui, voir que j'étais toute seule pour faire la queue, mais quelle émotion! Et surtout, pouvoir entrer dans la basilique, seule, pour moi qui habite juste à côté, c'est magnifique. C'est vraiment émouvant.
Et comme Franca, les Italiens sont sortis de chez eux ce matin, enfin libres d'aller marcher ou prendre un café, puisqu'à partir d'aujourd'hui, plus besoin d'attestation pour circuler dans une même région. Mais bien sûr, toutes ces réouvertures s'accompagnent d'une série de règles strictes. Masques et gants obligatoires pour les serveurs, climatisation interdite, réservation nécessaire à peu près partout. Après deux mois confinés, pas question de prendre des risques. D'ailleurs, le gouvernement italien reste prudent. Si la contamination repart à la hausse, le déconfinement sera stoppé.
Blandine Gonnet, correspondante d'Europe 1 à Rome.
Merci beaucoup Isabelle Millet. On vous retrouve évidemment avec un nouveau journal à 18h30. Un rappel des titres pour être exact. Du côté du temps, Anissa, on a aimé aujourd'hui, on aimera demain.
Alors, c'est un temps identique, effectivement, demain à celui d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il va faire beau sur une grande partie de la France, mais ça veut dire aussi qu'en Corse, le ciel sera bien couvert avec des averses orageuses, des averses qui vont s'atténuer en fin de journée. Dans le sud-est aussi, c'est compliqué, hein, puisque sur les Alpes du Sud et la Côte d'Azur, les nuages vont vous apporter des averses dès le matin. Et puis dans l'après-midi, les averses vont se renforcer et elles seront accompagnées de coups de tonnerre. Sur le reste du pays, le temps est calme. Demain, très ensoleillé comme aujourd'hui, avec sur les côtes de la Manche, quelques petits brouillards en début de journée, mais qui vont très vite se dissiper. Les températures, elles grimpent 4 à 9 au nord-ouest, c'est frais, 8 à 13 sur l'ensemble de la France demain matin, jusqu'à 18 au bord de la Méditerranée. Puis dans l'après-midi, 19 à Caen, 21 à Bastia, 22 à Biarritz, 23 à Clermont-Ferrand, 24 à Lille et La Rochelle, 25 à Toulouse, 26 pour Paris, 28 à Cahors. Je ne m'arrête pas là, ça continue de grimper jusqu'à 30 degrés demain après-midi à Montpellier. Merci.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, se poursuit avec votre invité dans un instant.
Oui, avec des écoles qui ouvrent et d'autres qui ferment. Hein. Un risque de deuxième vague en France. 25 clusters dans le pays. On va faire le point avec le président de la région Grand Est et médecin urgentiste. Cette région qui a été particulièrement touchée dès le début de la crise il y a plus de 2 mois. Jean Rottner est mon invité sur Europe 1 dans moins de 2 minutes.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, vous recevez ce soir le président Les Républicains de la région Grand Est, ancien maire de Mulhouse et médecin urgentiste Jean Rottner.
Bonsoir Jean Rottner.
Bonsoir Nathalie Lévy.
Merci beaucoup d'être sur Europe 1 ce soir en direct à mes côtés. Alors on parle désormais de 70 cas avérés ou suspicions, écoles fermées dans la foulée, des cas de Covid-19 bien sûr recensés dans les 40 000 écoles primaires et maternelles réouvertes en France depuis une semaine. Par conséquent, fermeture immédiate ou presque. Sommes-nous allés trop vite en besogne, Jean Rottner ?
Non, je crois que c'est quelque chose auquel on s'attendait. C'est la politique en tout cas de protection, de tests et d'isolement telle qu'elle a été annoncée par le Premier ministre. La question aujourd'hui, c'est de savoir si dans le temps, on va avoir la possibilité de tester autant de clusters qui se développent petit à petit. La question est vraiment là. Sommes-nous à ce jour suffisamment organisés ? J'ose espérer que oui. Je vois, en tout cas dans ma région, les 2 clusters qui viennent de reprendre. Il y a effectivement un cluster
scolaire. En Moselle, à Château-en-Salins, par exemple.
Oui, et il y a un cluster qui, je crois, a lieu dans une caserne de gendarmerie. Tout cela nécessite effectivement une enquête approfondie, d'être testé, d'être isolé. Donc, pas d'affolement, mais une attention en tout cas particulière qui doit être là. On ferme la structure, on isole on attend 14 jours.
Mais c'est ça. Alors, Jean Rottner, ça va être un va-et-vient comme ça. Ça peut être un va-et-vient constant jusqu'à la date des vacances scolaires, les grandes vacances, des écoles ouvertes pour 8 jours et puis refermées pour 14 jours et puis rouvertes encore sans avoir de certitude finalement, parce que là, on n'avait pas de certitude sur l'enseignant qui a été typiquement à Château-en-Salins testé positif. En attendant, difficultés pour les parents, de nouveau prise en charge des enfants, etc. Est-ce que le jour vaut vraiment la chandelle, au fond ?
Vous savez, je souriais parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que vous allez ouvrir les lycées ? Mais quand je me balade dans ma ville, je vois des groupes d'adolescents lycéens qui visiblement ne sont plus chez eux, ne sont pas forcément dans le quartier, qui déambulent, qui chahutent. Je crois que même pour notre sécurité sanitaire et pour la non-propagation de l'épidémie, un milieu fermé, réglementé, vaut peut-être mieux qu'un milieu dans lequel le jeune est un peu livré à lui-même dans un groupe.
Mais confiné, Jean Rottner, de fait, enfin confirmé, en tout cas enfermé. Or, on sait, et vous le dites vous-même, que être à l'air, c'est quand même aujourd'hui le meilleur moyen finalement pour limiter un peu la contagion, non ? Être en plein air.
Le meilleur moyen pour limiter la contagion, c'est de porter un masque.
Bien sûr.
Il y a encore trop de personnes qui ne portent pas le masque, qui ne respectent pas la distanciation sociale, qui ne se lavent pas suffisamment les mains. Ce sont, à défaut de vaccins, à défaut de traitement, c'est la seule possibilité que nous avons aujourd'hui de limiter l'épidémie. Je crois qu'on ne le fera pas assez.
Ouais.
Et ce n'est pas parce qu'on est sorti du confinement que l'épidémie s'achève.
Mais
bien au contraire, on doit être plus attentif que jamais.
Jean Rottner, justement, l'épidémie, on le sait, ce virus, il nous surprend tous les jours, malheureusement. Hein. Une nouvelle infection proche de la maladie de Kawasaki, dont on a déjà parlé il y a 3 semaines de ça à peu près, est manifestement reliée au Covid, frappe les plus jeunes un peu partout dans le monde. Un enfant de 9 ans est mort à Marseille, un autre en Grande-Bretagne. Des enfants en apparence en excellente santé, comme dans la cité phocéenne. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Jean Rottner ? Les enfants sont-ils en danger ?
Non, je ne le crois pas. Ça fait partie là aussi de l'évolution possible de la maladie. Il semble y avoir un lien effectivement avec cette expression de la maladie de Kawasaki et cet enfant qui était porteur du Covid. Mais pour autant, ce sont des cas extrêmement rares, ce sont des cas isolés et ce sont des cas majeurs. Nous en parlons parce que nous sommes surinformés, parce que nous essayons de nous prémunir les uns les autres de cette maladie. Que dans ce cadre-là, ça, c'est un cas en plus extrêmement dramatique qui se solde par le décès de cet enfant. Donc, je crois qu'il n'y a pas... La maison ne brûle pas, mais encore une fois, aujourd'hui, avec la connaissance médicale et la circulation d'informations, il y a parfois aussi de la démesure, mais il faut garder, encore une fois, moi je le répète, beaucoup de prudence. Face à ça, c'est pour ça que je pèse aussi un peu entre la zone rouge et la zone verte.
Mais oui, je sais, on va y venir.
La zone rouge, ce sont des indicateurs, mais il y a autant de dangers potentiels aujourd'hui dans une circulation de virus, dans une zone verte, que dans une zone rouge, si nous ne faisons pas attention.
Alors justement, et je sais que vous êtes très attentif et pour cause à cette situation, vous en appelez, Jean Rottner, vous, parce que vous êtes à la frontière précisément, hein. Vous en appelez-vous à une réouverture de la frontière franco-allemande le plus tôt possible. La date est fixée, on le sait, au 15 juin. On a entendu Emmanuel Macron aux côtés d'Angela Merkel un peu plus tôt. Pourquoi cette urgence, Jean Rottner ?
Mais parce que pour nous, vous savez, ce n'est pas une frontière, c'est un espace de vie quotidien. C'est un espace de coopération européenne du quotidien. On ne voit plus la frontière. Et là, tout d'un coup, hop, la frontière réapparaît. Moi, je suis très heureux de l'annonce qui vient d'être faite. Oui. D'un plan de relance franco-allemand de 500 milliards. Pourquoi ? Parce qu'il va être moteur, parce que l'Allemagne accepte quelque part un nouveau jeu dans les dettes européennes des pays européens. Donc c'est essentiel, ça va avoir un effet absolument positif par rapport à la politique européenne du plan de relance. Ça,
mais
c'est essentiel. Mais la fermeture de la frontière,
c'est antinomique alors ?
Et voilà, c'est antinomique. Et donc, c'est vrai qu'on lutte, mais du côté belge également, du côté luxembourgeois, ça s'est très bien passé, sans incident particulier, les frontières étaient ouvertes.
Mais les raisons sanitaires, Jean Rottner, les raisons sanitaires, elles n'ont plus lieu d'être ?
Mais elles ont lieu d'être des deux côtés, et ce n'est pas en fermant forcément la frontière qu'on va fermer, là aussi, la possibilité d'avoir des échanges. Les travailleurs frontaliers étaient toujours là, les marchandises passaient toujours, mais essayons de raisonner par bassin de vie, par bassin européen. Oui. Et là, bien, on était un peu gênés parce que la frontière s'est refermée très brutalement par une décision de Berlin qui n'était pas attendue. Et ce qui fait que ça entraînait aussi, pour beaucoup de familles, des difficultés.
Certains vivaient
des deux côtés de la frontière, d'autres avaient leurs personnes âgées dans un EHPAD d'un côté ou de l'autre. Il y a de vraies situations difficiles, des enfants qui, dans des familles...
Des familles recomposées ou séparées.
Recomposées de part et d'autre de la frontière. Tout ça, c'est... Je répète, c'est un espace de vie européen qui ne comprend plus vraiment les frontières depuis l'apparition de Schengen.
Jean Rottner, deux questions.
Compliqué à organiser du jour au lendemain.
Deux questions encore rapides, si vous le voulez bien. Je voudrais vous entendre sur l'ouverture des parcs et jardins dans les départements classés rouges, parce que c'est encore le cas chez vous dans la région Grand Est. Est-ce qu'il faut les ouvrir ? C'est vraiment la bataille qui se joue à Paris. On voit bien les municipales pointer le bout du nez. Est-ce qu'il faut les rouvrir pour justement laisser aux gens la possibilité de s'aérer, non pas sur les trottoirs, et voire être souvent en grande proximité, typiquement chez vous aussi, est-ce qu'il faut le faire ?
C'est une question, c'est vrai qu'on peut se poser, qu'on doit se poser. Il y a peut-être de la modulation à avoir là-dessus entre une campagne qui est ouverte à tout le monde, des forêts qui sont ouvertes à tout le monde en dehors des villes.
Des plages.
Et des espaces publics à l'intérieur des villes. Mais là, vous savez, si les gens ont une attitude responsable et citoyenne, ça ne devrait pas poser de problème. Malheureusement, parfois, on est face à des comportements qui sont des comportements irrationnels, qui sont des comportements loin, justement, de ce comportement citoyen. C'est ce qui fait regretter, ce qui fait que
Mais il y a plein d'esplanades, Jean Rottner. Il y a plein d'esplanades aujourd'hui, par exemple à Paris, zone rouge encore, l'esplanade des Invalides, où on est en libre accès sur le gazon. Hein.
Tout à fait. C'est peut-être une décision qui va évoluer. Vous savez, dans cette maladie, face à cette épidémie, eh bien petit à petit, les attitudes ont changé. On a appris à la connaître tout simplement et à prendre des décisions qui, eh bien, font preuve aussi, je crois, à un moment donné, d'un raisonnement et d'une simplement de protection qui s'impose.
Merci beaucoup. Merci en tout cas, Jean Rottner, d'avoir répondu ce soir à mes questions, président Les Républicains de la région Grand Est, médecin urgentiste. Merci à vous.
À suivre dans un instant, Nathalie Lévy.
La suite, évidemment, de votre grand journal du soir avec le rappel des titres. Et puis, on décortique l'actu du jour, les grandes voix. Bien sûr, les municipales, l'accord européen pour le budget. Et puis, la reprise des collégiens. C'est sur Europe 1 et c'est jusqu'à 20h.
Europe 1.
Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Isabelle Millet.
Emmanuel Macron et Angela Merkel proposent un plan de relance pour l'Europe de 500 milliards d'euros afin de soutenir la reprise et renforcer la croissance des pays les plus fragiles. Créer une Europe de la santé doit devenir notre priorité, dit le président français. C'était au tour des collégiens de faire le retour en classe ce lundi, dans un premier temps uniquement les 6e et les 5e et uniquement dans les régions les moins touchées par l'épidémie. Alors que 70 écoles sont-elles restées fermées pour cause de cas détectés ou bien de suspicions? Plusieurs foyers épidémiques détectés depuis le déconfinement dans des abattoirs près d'Orléans à Fleury-les-Aubrais. Les 400 salariés doivent être dépistés. 69 cas également recensés dans un autre abattoir des Côtes d'Armor à Saint-Brieuc où tous les salariés seront testés à partir de demain. La disparition à 94 ans de Michel Piccoli, un géant du cinéma et du théâtre. Michel Piccoli était notamment connu pour ses rôles dans Le Mépris de Jean-Luc Godard, Les choses de la vie de Claude Sauté ou plus récemment dans Habemus Papam de Nanni Moretti.
Merci Isabelle, on se retrouve évidemment à 19h avec un nouveau journal complet. Bon bah Anissa, on aime bien quand même là, ce lundi.
Ah bah c'est agréable. Et puis on a changé d'ambiance, hein. C'était l'hiver la semaine dernière, là ça commence à être le printemps, voire même l'été demain, une journée très estivale sur l'ensemble du pays. Quelques brumes et brouillards sur le nord-ouest en début de journée qui vont très vite se dissiper. Attention tout de même encore sur le sud-est, sur les Alpes du Sud, sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Demain c'est encore agité avec même quelques coups de tonnerre dans l'après-midi. Les températures, elles grimpent avec 19 à 30 degrés demain après-midi.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy. Et pour décortiquer l'actualité de ce lundi, vous êtes entourée des grandes voix ce soir. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1, Emmanuel Duteil, chef du service économie, et Virginie Salmen du service société.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir Nathalie.
Bienvenue Emmanuel Duteil, Aurélie Herbemont. On attend Virginie Salmen qui va nous rejoindre dans une petite seconde. Emmanuel Duteil, c'est l'actualité du jour. J'ose à peine vous regarder, vous êtes si près. Ça fait drôle.
Mais je suis en plus bronzée que ce que vous imaginez.
Ça va. Alors, dites-moi Emmanuel, l'accord européen pour le budget, on a vu Emmanuel Macron, oui, et Angela Merkel, c'est bien ça, côte à côte ou presque tout à l'heure, ça y est, entre l'Allemagne et la France, de nouveau une lune de miel se profile, une sorte de résurrection.
Oui, je crois qu'il ne faut pas trop se moquer en effet, parce que c'est quand même très important ce qui vient de se passer. Alors là, certains de nos auditeurs qui soient rendus du travail ou qui n'ont pas eu le temps de surveiller ce qui s'est passé se demandent peut-être ce qui s'est passé aujourd'hui. On a appris en fin de matinée une conférence de presse entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, conférence de presse un petit peu surprise, et qui est arrivée parce qu'ils ont enfin réussi à se mettre d'accord. Il faut voir qu'au niveau européen, depuis des semaines, on tente de trouver un accord franco-allemand pour faire quoi? Eh bien, tout simplement pour trouver un plan de relance de la zone euro et faire en sorte que cette zone euro n'explose pas. Ouais. Et là, on y est arrivé. Et ce qui est marrant, c'est que pour une fois, ce n'est pas le plan allemand qu'on adopte.
C'est pas le plan français non plus.
Bah, C'est une espèce d'impulsion commune.
Exactement.
C'est un mix des deux. C'est-à-dire que pour une fois, la France a réussi à obtenir de la part de l'Allemagne, on va faire très simple, hein, que grosso modo, elle accepte de payer un peu pour les autres. Ouais. Et la France a accepté que l'Allemagne paye moins que ce qu'elle aurait pu pour financer tout cela. Et donc, ce plan est un plan qui doit permettre à l'Europe d'avoir des moyens financiers, hein, 500 milliards d'euros pour investir, pour aider les pays en difficulté à sortir de la crise. Alors, ça n'a pas valeur de loi, mais je peux vous dire qu'un exemple tout bête, hein, les marchés financiers se sont littéralement envolés une fois qu'ils ont vu ça, et les fameux taux d'emprunt auxquels notamment les pays du Sud empruntent, eh ben, ont fortement baissé grâce à ce mouvement qui n'est qu'un prémisse, il va falloir que ce soit décidé, voté, Mais chapeau quand même.
Ouais. Mais alors, Aurélie Herbemont, sur quel pays on peut compter? C'est uniquement la France et l'Allemagne?
C'est alors maintenant, il va falloir convaincre tous les autres. Parce que, mais c'est vrai que le moteur franco-allemand, c'est quand même fondamental. Surtout que là, alors on n'a pas prononcé le mot qui était un mot tabou et qu'il est toujours le mot des Corona Bonds. Alors là, ça ne s'appelle pas des Corona Bonds, mais dans la philosophie, ça y ressemble. Et c'est vrai qu'il y avait d'un côté Emmanuel Macron et la France qui poussaient pour davantage de solidarité avec les pays du Sud les plus touchés. On pense à l'Italie et l'Espagne, évidemment. Et puis les pays du Nord, l'Allemagne, mais aussi les Pays-Bas, qui étaient tout à fait hostiles à cette idée. Mais là, quand même, si la France et l'Allemagne, d'ailleurs, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a salué cette initiative et donc va pousser aussi dans ce sens-là. Oui. Le but maintenant, c'est de convaincre tous nos petits camarades. Mais c'est vrai que quand la France et l'Allemagne déjà
donnent l'impulsion,
c'est pas mal. Mmh. Parce que si ça arrive à aller au bout, c'est quand même effectivement quelque chose de très important. Pour la première fois, l'Union européenne va emprunter en son nom propre. L'Union européenne va dire je veux sur les marchés financiers 500 milliards d'euros et après qui sera rebasculé dans le budget européen pour subventionner des secteurs ou des régions particulièrement impactées.
Ce que dit Aurélie, c'est vraiment important. C'est capital même pour la construction européenne. Alors ceux qui sont totalement anti-Europe là vont m'assassiner à la sortie du studio, mais c'est le deuxième pan qu'on n'avait jamais réussi à mettre en place en Europe. C'est un vrai pan budgétaire qui donc à l'aune de cette crise va voir le jour. C'est le pan rêvé de Jacques Delors, hein, donc
Et c'est une première fois. Voilà. On va se retrouver pour en parler dans un petit instant et puis on développera tout à l'heure avec mon invité Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des Affaires européennes à 19h20. Virginie Salmen, vous êtes là évidemment ce soir parce qu'il est important de se pencher sur ces écoles qui ont ouvert et puis qui ont refermé 70 depuis quelques jours après des cas suspects de Covid.
Oui, c'est-à-dire qu'on mesure avec ces 70 écoles qui ont, pour certaines, fermé juste temporairement, qui vont rouvrir dans quelques jours, dans quelle ambiance se fait cette reprise par endroit, donc surtout en zone rouge, mais pas que, parce que ces écoles, par exemple, la ville de Sens, qui est assez emblématique, la maire a décidé la veille de la rentrée prévue, c'est-à-dire jeudi dernier, de ne pas rouvrir parce qu'elle a eu elle a eu connaissance de deux enseignantes qui étaient suspectées, enfin qui auraient pu avoir le Covid. Finalement, il se trouve que les tests sont revenus négatifs, mais elle s'est dit qu'est-ce que je fais moi? Alors en plus, j'imagine que elle a tout de suite invoqué, on l'a eu au téléphone, la maire de Sens, et elle a dit moi la responsabilité pénale en tant que maire fait que je prends toutes les précautions possibles. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, deux enseignantes, la maire a décidé de fermer la vingtaine d'écoles de la ville. Vous vous imaginez? Donc, à la fois, je trouve que c'est difficile de comprendre la logique pure de cette décision, parce qu'on se dit, deux enseignantes dans une école, ou peut-être deux au maximum, ok, on ferme deux écoles, on prend des mesures, très bien. Mais voilà, on mesure un peu la fragilité, le climat de tension.
Ouais, c'est la question que je posais à Jean Rottner, c'est ces allers-retours, ouvertures, fermetures d'écoles qui risquent de durer comme ça jusqu'au 6 juillet, avec un suivi pédagogique du coup définitivement très très court et qui pose effectivement question.
Voilà, exactement, Ouais, parce que la mère disait, moi, chaque écolier de ma ville, c'est comme mon enfant. Donc je fais attention pour lui comme pour mon enfant. Donc c'est vraiment ce climat de responsabilité pénale des mères et puis ce climat de crise sanitaire qui rend les gens très très fébriles. Alors après, il faut ramener quand même les chiffres à ce qu'ils sont. Hein. Oui, là, on est à 70 écoles. Il y a 40 000 écoles sur 50 000 environ primaires, qui ont rouvert. Voilà, c'est ça, qui ont rouvert en France. Donc là, on est à 0,1% des écoles qui ont fermé quelques jours avec des cas qui sont mal majoritairement des cas d'adultes, des suspicions. Il y a quelques cas avérés, mais pas que des cas certains. Et quelques enfants, effectivement, notamment à Roubaix, par exemple.
Exactement. Alors, on va y revenir, évidemment. Je vous retrouve, Virginie Salmen, dans un instant. Aurélie Herbemont, Emmanuel Dutheil, on reste ensemble. À tout de suite, les grandes voix.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
Aurélie Herbemont, Emmanuel Dutheil, Virginie Salmen, on se parle évidemment de tous ces sujets qui font l'actualité. Alors, deux priorités, j'hésite dans mon choix parce qu'on a eu le retour de François Baroin ce matin sur l'antenne d'Europe 1, l'homme invisible de cette crise, ou presque, Aurélie Herbemont. Et puis, on part peut-être en vacances, enfin, on part en vacances, mais où? Et là, c'est Airbnb qui a donné ses destinations, c'était encore sur Europe 1 ce matin.
On va laisser Aurélie.
Aurélie, François Baroin, de retour. Il avait fait un choix, celui du silence, choix délibéré comme ça. Et ce matin, il a répondu aux questions de Sonia Mabrouk sur Europe 1.
Oui, et je peux vous dire que certains à droite, même au gouvernement aussi, se disaient, est-ce que François Baroin a vraiment envie d'être candidat à la présidentielle?
Ça n'a pas toujours été un peu son problème.
C'est une question qui revient régulièrement et elle est revenue avec un peu plus d'acuité depuis ces deux mois de crise sanitaire, parce que certains à droite, donc ceux qui voudraient le pousser pour qu'il soit candidat, se sont dit mais c'est pas possible, il ne parle quasiment pas, c'est le moment de monter au créneau, d'aller ferrailler avec le gouvernement. En plus, il est maire de Troyes, mais patron de la très puissante Association des maires de France, et les maires sont quand même légèrement en première ligne. Mais François Baroin lui avait choisi une autre option qui peut s'entendre aussi, c'est-à-dire qu'à parler tout le temps, on peut parfois dire n'importe quoi, en n'ayant pas tous les éléments, donc François Baroin... Il a bossé dans sa mairie à Troyes, il a bossé avec l'AMF, fait des visios. Alors ça, je pense qu'on ne peut même pas calculer le nombre de visioconférences qu'il a dû faire depuis deux mois avec ses collègues maires et avec les ministres. Et donc ce matin, quand même, il a pris la parole. Ouais. Alors ça a dû soulager des gens à droite de se dire... Sûr. Il est de retour, mais voilà, c'est le discret François Baroin.
Faut-il maintenant se distinguer d'une Valérie Pécresse ou d'un Xavier Bertrand? Valérie Pécresse qui était aussi ce matin sur un média.
Valérie Pécresse qu'on a beaucoup plus vue et qui a vraiment géré la crise sanitaire, aller distribuer des masques, au contact. Xavier Bertrand aussi qu'on a moins vu que Valérie Pécresse, mais beaucoup aussi. Et si on reste stricto sensu chez les Républicains, puisque Valérie Pécresse et Xavier Bertrand ne sont plus membres de ce parti, vous avez des Bruno Retailleau qui ferraille contre le gouvernement depuis deux mois non-stop, des Damien Abad, son homologue président des députés à l'Assemblée, qui ferraille. Et c'est vrai qu'à droite, certains se sont dit, c'est le moment quand même de marquer des points, de marquer des esprits. Et c'est un ministre la semaine dernière qui me disait, quand même François Baroin, en même temps, c'est sans doute le plus fin et le plus fin politiquement, parce qu'en même temps, du coup, on ne se met pas en danger quand on n'est pas sûr. En première ligne. Potentiellement, on peut ne pas raconter n'importe quoi, ce qui, dans cette crise, parfois a été le cas de certains responsables politiques, majorité, opposition confondues. Donc, en même temps, il est en position d'attente et dans l'opérationnel, dans sa mairie avec les maires.
Voilà.
Et certains disaient, est-ce qu'il a vraiment envie? Est-ce qu'on peut un peu être aux abris quand on a envie d'être candidat à la présidentielle? Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter dans les mois qui viennent.
Évidemment, surtout avec les municipales dont on ne sait pas encore quelle est la date, mais ça se rapproche. Je vous laisse deux secondes, je reviens vers vous pour en parler et vous nous direz évidemment ce qu'il en est.
Parlons des vacances d'abord.
On fait quand même un petit détour par le large.
Il n'y a
avec
que
vous.
Ça qui nous intéresse en ce moment,
je crois,
non?
Je crois qu'il faut être franchement...
Pour ceux qui vont avoir la chance
soyons
de pouvoir
clairs,
partir.
Soyons transparents. Voilà. Alors, avec vous sur Europe 1 ce matin, Airbnb, effectivement, Emmanuel Duteil a donné son top 3 et même plus encore des possibilités.
Oui, ils sont venus nous révéler ce matin sur Europe 1. C'était à 6h40 au micro de Mathieu Béliard dans la matinale d'Europe 1. Où est-ce que l'on va aller? Alors déjà, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a énormément de recherches en ce moment sur le site Airbnb et on commence enfin à chercher beaucoup pour l'été, puisque environ plus d'une recherche sur deux en ce moment est vraiment focalisée sur l'été. Je peux vous dire qu'on va partir en France. A priori, on n'a pas plus d'ambition que ça. 85% des recherches sont basées sur la France. C'est tout à fait inédit par rapport aux chiffres. Alors, même si ça peut paraître assez traditionnel, on voit qu'il y a vraiment une pointe très importante et plus encore que d'habitude sur la mer, sur les destinations
maritimes. Ça nous a manqué.
On le voit sur l'ouest, mais on le voit surtout sur le sud. Mmh. Et ça corrobore les premières réservations qui ont eu lieu pour l'été du côté de la SNCF cette fois. Parce que ce qui arrive en tête, c'est PACA. Devant le sud-ouest, derrière vous avez la Bretagne et vous avez le Languedoc. Donc on a besoin de mer, mais aussi, et là c'est un signe extrêmement intéressant, même si ça fait quelques années que ce qu'on appelle le tourisme rural, c'est pas très joli comme expression, mais que le tourisme rural progresse en France, là il y a véritablement une grosse recherche. Inévitablement, il y a sûrement beaucoup de gens qui se disent, allez, en ayant un très grand espace, en n'ayant pas trop de voisins, ça va pas être trop compliqué pour respecter gestes barrières et autres. Donc ça monte beaucoup, 16% quand même des recherches sont basées sur le tourisme rural. La montagne se porte hyper bien. Et aussi, mais ça représente, j'imagine, toutes les discussions que vous avez pu avoir avec vos amis pour envisager les vacances, des petits groupes. Donc vraiment avec des recherches de petits groupes. Et puis, parce qu'on en a tous beaucoup manqué, des piscines.
Et puis pour l'instant, on repère, mais on ne clique pas encore pour réserver. Hein. Non, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais,
mais c'est exactement pareil sur le site de la SNCF. Ce qui est très intéressant du côté de la SNCF, c'est que les premières ventes qu'il y a pu avoir étaient des ventes de 2-3 jours. Ouais. Et la SNCF s'est posé des questions au début en disant, mais à quoi ça sert? Les gens ne vont pas partir en vacances pendant 2-3 jours. C'est juste qu'on a réservé une seule chose, se débarrasser des enfants.
Allez, je m'arrête là, c'est pas possible, inaudible. On se retrouve avec vous, Virginie Salmen, dans un instant. Les enfants, justement, on va en parler, les grands-enfants, notamment Parcoursup. Les premiers résultats, c'est demain à 17h, à tout de suite. Les grandes voix sur Europe 1. Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous, Nathalie Lévy.
Virginie Salmen, spécialiste évidemment société, éducation aussi. Alors je vous retrouve parce qu'il y a plusieurs choses avec vous. Il y a la Haute Autorité de Santé qui juge que le recours aux autotests, ce fameux test au bout du doigt avec la goutte de sang, hein, est pour l'instant prématuré.
Oui, alors c'est pas tellement le test en soi qu'on pourrait faire, alors comme un test de grossesse dans la lecture, disons, mais sinon c'est effectivement une petite goutte de sang au bout du doigt. Le principe, c'est vraiment une fois qu'on a fait le test et quand, est-ce, comment on arrive à le lire, comment on l'interprète. Apparemment, c'est pas évident. Il faut une certaine maturité, disent-ils, voilà, une connaissance. Donc c'est pour l'instant, c'est pas encore tout à fait au point. Donc ça, c'est l'avis que la Haute Autorité de Santé a rendu aujourd'hui. Mais dans le même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que ils disent que des tests sérologiques fiables arrivent. Enfin, on les a attendus, ces tests. Voilà, donc ils vont arriver. La liste des tests qui sont fiables va être publiée dans les prochains jours par le comité national les autorités sanitaires. Et donc, par exemple, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, vous savez qu'on voit des files dans certaines villes de gens qui vont se faire tester. Et ces tests-là, pour l'instant, ils sont pas très fiable. Donc,
j'essaie de comprendre un truc. Juste les autotests, et donc avec cette petite plaquette blanche qui nous dit, en fait, avec une barre, si on est positif ou négatif, c'est ça, qu'on n'arrive pas bien à déchiffrer, en fait, qui n'est pas certain. D'accord.
Ces autotests-là, ceux qu'on pourra faire à la maison, pour l'instant, on n'est pas prêt. En revanche, les tests en laboratoire, les fiables, arrivent bientôt. On aura une liste dans les prochains jours, et donc on pourra aller se faire tester pour de vrai. On pourra répondre à la question, est-ce que j'ai été malade, est-ce que j'ai rencontré le virus. D'accord. Ça, c'est quand même assez intéressant.
Bon, je reviens vous voir parce que Parcoursup, on aura des chiffres demain à 17h. Donc je reviens évidemment vous voir. Emmanuel Duteil, en quelques mots, une bonne nouvelle sur... une relative bonne nouvelle. Amazon va rouvrir demain. Et puis du côté de certaines enseignes, en revanche, là, les grilles commencent à se baisser. Et c'est des enseignes avec lesquelles on a grandi.
Oui, effectivement. Alors on va commencer par Amazon. Ils ont enfin trouvé un accord avec leur syndicat. C'est-à-dire qu'ils ont enfin décider de faire ce qu'il faut faire pour pouvoir rouvrir. Donc ils vont effectivement recommencer à ouvrir leurs 6 entrepôts à compter de demain. Ça va être très progressif. Il va y avoir 3 phases. Demain, il y a un tiers du personnel qui est sur site. Ce sont obligatoirement des volontaires. Dans une semaine, ils vont essayer de monter en charge entre 50 et 80% des effectifs. Il y a un accord avec les syndicats pour dire que s'il n'y a pas assez de volontaires, ils pourront réquisitionner quelques CDI. Et à partir de début juin, là, il devrait y avoir tout le monde sur site. Si vous voulez en savoir plus, le patron d'Amazon sera l'invité demain matin à 8h de Mathieu Béliard. Donc ça, c'est pour Amazon. Effectivement, l'autre enseigne dont je pense que vous vouliez parler, Nathalie, c'est Conforama. Oui. Effectivement, on connaît tous cette enseigne. C'est une enseigne qui a été laminée là par la crise, mais il faut déjà être très honnête quand même. C'est une enseigne qui allait mal, voire très mal avant. Je ne sais pas si vous en souvenez, ils avaient fait une énorme restructuration il y a de ça quelques mois. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Tout simplement, ils n'arrivent pas à avoir le fameux plan d'aide garanti par l'État. Vous savez ce qu'on appelle ces PGE. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Alors c'est un peu compliqué. Si vous les écoutez, eux, c'est
ils disent que c'est les banques.
Que les banques sont trop frileuses et que notamment BNP Paribas serait des gros méchants. Si vous écoutez les banques, ils disent non, c'est juste qu'on ne fait pas un chèque en blanc et qu'on a juste besoin d'un plan d'activité qui tienne la route. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même 180 magasins en France Conforama. C'est une enseigne qui emploie énormément de monde et qui est donc en grande difficulté.
Ouais. Et c'est compliqué également pour Alinéa et d'autres enseignes. Exactement. On les apprend comme ça au fur et à mesure chaque jour. Aurélie Herbemont, alors on a évidemment une question autour de ce vote du second tour des municipales, un peu comme ça l'arlésienne, enfin non, parce que c'est pas si long, mais quand même. Il va falloir que le conseil scientifique se manifeste.
On attend l'avis du conseil scientifique effectivement, qui doit rendre son avis au gouvernement à Matignon. Ce soir
ça peut aller jusqu'à vendredi.
Et après, il faudra, parce qu'une fois que le conseil scientifique aura donné son avis, alors sans doute ce ne sera pas « oui, allez-y, le 21, le 28 juin » ou « non, n'y allez pas ». Ça sera sans doute beaucoup plus circonstancié et moins un feu vert ou un feu rouge, pour rester dans les couleurs rouge et verte. Et donc après, une fois que le Premier ministre aura quand même cet avis, ou quand même on aura une tendance, si c'est totalement irresponsable, comme le disent certains, ou si après tout... Allons-y, faisons ça avant l'été. Après, il faut que le Premier ministre dise quel est son plan à lui, qu'il consulte les formations politiques, parce que l'idée, évidemment, c'est de ne pas se retrouver en rase campagne seul et après se faire accuser par toute l'opposition, vous ne nous avez pas consulté. Donc du coup, ça va prendre encore jusqu'à la fin de la semaine pour qu'on y voit plus clair. Mais normalement, le conseil scientifique doit rendre sa première copie qui va permettre déjà de voir si c'est envisageable, ne serait-ce qu'envisageable en juin. Et c'est vrai que beaucoup de monde dans la classe politique
plaide pour que ce soit en juin.
Vous avez vu sans doute encore cette tribune ce week-end avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, Christian Estrosi, le maire de Nice. 36 maires qui disent, bon, il est peut-être temps qu'on fasse ce deuxième tour. Ouais. Parce que si on ne le fait pas avant l'été, il faudra refaire les tout. Et ça pose des questions, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Et ça veut dire qu'il faut refaire donc un premier tour. Est-ce que c'est exactement les mêmes candidats ou pas? Qu'est-ce qu'on fait des dépenses de campagne qui ont été engagées pour le premier tour?
Il faut reporter
les sénatoriales, même si évidemment, si on vote en juin, la vraie question est à quoi peut ressembler une campagne sans meeting, a priori, et avec des masques pour faire des porte-à-porte et pour distribuer
des tracts. C'est pas gagné, tout ça.
Donc, ce sera inédit, mais toute cette campagne est inédite.
De toute façon, toute cette période est inédite. De toute façon. Allez, Virginie Salmen, je reviens vous voir en une minute. Les premiers résultats de Parcoursup, c'est demain à 17h. Hein. Qu'est-ce qu'on saura?
Alors, les élèves vont recevoir tout simplement, vous savez, leur fameux admis, refusé ou en attente. Donc, ils ont demandé des choses. Voilà, ils vont savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Et puis, il y a des questions très concrètes pour cette génération Covid qui se posent parce que donc ils vont avoir leurs résultats, mais dans quel genre de fac ou d'école vont-ils arriver en septembre? On imagine les amphis bondés de 1000 étudiants. Comment on fait? Quel sport on pratique en STAPS, donc en fac de sport? Les salles informatiques, comment on fait? Ce sont tout un tas de questions que les professeurs commencent à se poser là au moment où on voit qui est accepté dans quelle filière, ils se demandent vraiment comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire, comment est-ce qu'on va pouvoir faire cette rentrée de ce qu'ils appellent la génération Covid.
Ah oui, alors demain on aura les résultats, mais on n'aura pas encore le dessin, effectivement, le protocole.
J'espère qu'ils ne seront pas marqués à vie par cette expression, bien sûr.
Ah oui, évidemment. Bon, merci beaucoup Virginie Salmen. Du coup, on vous retrouvera demain pour en reparler avec vous. Merci les grandes voix de ce lundi. C'était
merci,
un plaisir
Nathalie,
de vous retrouver. À demain.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Eh bien, dans un instant, c'est Isabelle Millet, son journal complet 19h, et puis ce plan de relance de l'Europe de 500 milliards. On va y revenir dans le détail, à tout de suite.
Europe 1.